Bonjour, vous êtes sur Couleur FM 97.1 à l'émission Fenêtre sur cour. Vous êtes en présence aujourd'hui de
André,
Bernadette
et Geneviève. Nous avons choisi ce mois-ci de faire une émission sur la précarité à Bourgoin-Jallieu et nous avons pensé que c'était intéressant d'inviter deux bénévoles du panier de Léontine qui se trouve à Bourgoin-Jallieu. Je vous laisse vous présenter.
Oui, bonjour à tous. Je m'appelle Michèle Bonnetto, donc bénévole au panier de Léontine, présidente de l'association.
Et
Liliane Ravet, vice-présidente de l'association.
Bon, alors on va essayer de découvrir qu'est-ce que c'est que ce panier de Léontine.
Qu'est-ce qui se cache derrière le panier de Léontine ?
Ce qui se cache derrière le panier de Léontine, c'est déjà une épicerie sociale, une épicerie sociale et solidaire. Le nom du panier de Léontine vient du prénom de la grand-mère d'une des bénévoles qui a aidé à l'ouverture du panier de Léontine.
C'est comme ça qu'est né le projet ? Et depuis quand ?
Alors, le projet est né en 2009. Il était soutenu par le Secours catholique. Et en 2012, une autre épicerie a été ouverte à Villefontaine.
C'est un projet qui s'élargit, puisque nous sommes une épicerie sociale et nous nous ouvrons en épicerie solidaire.
D'accord. La différence, épicerie sociale, épicerie solidaire, qu'est-ce que c'est ?
Oui, nous pouvons peut-être rappeler le principe. Une épicerie sociale, c'est une épicerie qui fait bénéficier, qui permet de vendre à tarif réduit, à moitié du prix du moyen du marché, à des personnes qui ont un bas revenu, qui ont un reste à vivre entre 100 et 250 euros.
Qu'est-ce que ça veut dire, reste à vivre ?
Un reste à vivre, c'est en fait le revenu disponible.
C'est-à-dire une fois qu'on a déduit toutes les charges.
Une fois qu'on a déduit les charges, voilà.
D'accord.
Et une épicerie solidaire, c'est une épicerie qui offre ses produits à des personnes qui ont un meilleur revenu, qui payent un petit peu plus cher que le prix moyen du marché. C'est un principe de solidarité, puisque grâce aux bénéfices réalisés sur les ventes des solidaires, nous pouvons financer les achats pour les ventes aux personnes adhérentes bénéficiaires.
D'accord, donc ça vous libère un peu de subventions et puis d'argent qui doit venir de l'extérieur de l'épicerie, si je comprends bien.
Oui, le fait que l'épicerie s'ouvre aux solidaires permet une plus grande autonomie de l'épicerie, puisqu'elle peut en partie autofinancer ses achats qui permettent de vendre à moitié du prix pour les personnes bénéficiaires.
Vous nous avez expliqué donc les personnes qui peuvent bénéficier des produits du panier de Léontine. Donc c'est uniquement ce reste à vivre, c'est-à-dire après on s'occupe pas de savoir, je sais pas moi, d'où je viens, si j'ai du travail, pas de travail.
Non. Non, par contre, les personnes qui souhaitent acheter au panier de Léontine doivent remplir un dossier, aidé par une assistante sociale, soit du conseil départemental, soit des CCAS. Et ensuite, il y a une commission qui se réunit, qui permet qu'elles arrivent au panier de Léontine. Et c'est un contrat qui est signé avec elles, de 6 mois,
d'accord,
renouvelable une fois.
Mmh.
Et il n'y a pas que les achats, il y a aussi des animations, il y a une prise en charge, mais c'est pas une prise en charge sociale comme on l'entend auprès d'une assistante sociale.
Ouais, je vais me faire un peu provocatrice peut-être, mais on pourrait se dire, bah, pourquoi pas donner un chèque d'argent à ces personnes, puis on s'embêterait pas avec des bénévoles qui s'occupent d'une épicerie. En quoi le fait d'aller chez vous, c'est mieux qu'un chèque?
Alors le projet est beaucoup plus large que ça, hein. Nous sommes une épicerie sociale avec accompagnement individuel des personnes.
D'accord.
Les personnes que nous aidons sont des personnes en difficulté familiale parfois, en difficulté de santé. Donc il y a un véritable accompagnement personnalisé par des personnes bénévoles qui sont d'ailleurs formées pour l'accueil.
D'accord.
Et donc nous aidons ces personnes à régler des problèmes personnels, des problèmes de santé même. Nous avons des bénévoles dans le domaine de la santé. Et puis nous les aidons à réaliser des projets comme partir en vacances, s'équiper en électroménager, diminuer le surendettement aussi bien sûr, hein, dans certains cas. Voilà, donc nous ne sommes pas qu'une épicerie, nous sommes aussi un lieu d'accueil de ces personnes, d'accompagnement de ces personnes.
D'accord, donc la personne est prise dans sa globalité et non seulement dans son souci financier qu'elle peut avoir en ce moment.
Ah oui, tout à fait, oui, tout à fait. Nous ne sommes pas du tout une simple épicerie. Et puis aussi, je voudrais ajouter que cette épicerie est un lieu où nous voulons vraiment mettre l'accent sur la qualité des produits. Nous aidons ces personnes, mais aussi, il y a un peu cette envie de faire profiter à tous d'une alimentation de qualité équilibrée. Et nous avons accentué notre effort sur les fruits et légumes, par exemple, des fruits et légumes locaux. Que nous vendons, donc des fruits et légumes de qualité que nous vendons à moitié prix.
Et donc, vous, d'après ce que vous me dites, il y aurait éventuellement une éducation à la cuisine équilibrée. Est-ce que vous proposez aux gens, je ne sais pas moi, de faire des repas avec des légumes, avec de la viande, si malheureusement ils auraient des habitudes alimentaires qui ne seraient pas bonnes pour la santé?
Alors, je ne sais pas si on peut vraiment parler d'éducation. On n'a peut-être pas cette prétention, mais en tout cas, oui, nous allons vers des conseils, nous allons vers un échange, un véritable échange, parce que nous voulons aussi qu'il y ait une véritable mixité sociale dans cette épicerie, dire solidaire et adhérent bénéficiaire, tous ensemble autour d'une table, nous discutons des principes d'équilibre alimentaire, par exemple, oui, bien sûr, et de l'intérêt de bien s'alimenter pour la santé. C'est comme ça que nous voyons les choses.
Avez-vous des fonds pour les achats ou est-ce des dons?
Oui, nous avons, en fait, nous avons des subventions de plusieurs organismes publics ou privés qui nous aident pour les achats. Nous ne fonctionnons pas très très peu avec des dons. C'est compliqué, les dons. La banque alimentaire est à Grenoble, il faut aller chercher les dons sur place. Nous n'avons pas de véhicule, donc c'est vraiment difficile. Par contre, donc nous avons des subventions qui, heureusement, se renouvellent d'année en année, et d'autres subventions qui sont ponctuelles. Donc nous avons, par exemple, des subventions des communes, de la région, du département. En subvention privée, le Secours catholique continue à nous aider. Et ensuite, nous avons des subventions qui sont ponctuelles. Nous venons d'avoir une subvention exceptionnelle de Mutuelle Plus, de la CAF. Voilà, ce genre de c'est avec ces fonds qu'on peut fonctionner.
D'accord, donc financièrement, c'est une affaire qui tourne.
Non, on ne peut pas dire ça. C'est pour ça que les solidaires seront les bienvenus à partir du 7 janvier. Parce que effectivement, les subventions, c'est toujours aléatoire.
D'accord.
Et qu'on n'est pas dans une période en plus où les fonds publics sont forcément acquis. Ils ne le sont pas.
Donc vous devez dépenser de l'énergie pour aller vendre votre épicerie pour qu'elle soit dans la liste des bénéficiaires des subventions.
Absolument.
D'accord. C'est à refaire tous les ans.
Tous les ans, absolument.
Et c'est votre rôle, vous, en tant que présidente?
Oui, toutes les deux, présidente et vice-présidente, nous travaillons avec une personne qui est travailleuse sociale chez nous et nous établissons les dossiers de subvention qui sont en général des dossiers bien épais et bien compliqués. Mais il faut le faire, bien sûr, il en va de la survie de l'épicerie.
Combien avez-vous de bénévoles et comment sont-ils recrutés?
Nous avons une soixantaine de bénévoles sur les deux épiceries. En fait, le panier de Léontine, cela représente deux épiceries, une sur Bourgoin, bien sûr, nous l'avons dit, mais également une sur Villefontaine, dans le quartier de Servenoble. Nous avons donc une trentaine de bénévoles à Bourgoin, une trentaine de bénévoles à Villefontaine, ce qui représente 60 bénévoles. Nous sommes inscrits pour le recrutement, nous sommes inscrits sur le site internet France Bénévolat, mais pour l'instant nous n'avons pas encore recruté beaucoup de personnes à partir de ce site. Sinon, nous participons au forum des associations début septembre à Bourgoin et à Villefontaine. Et puis aussi, c'est par connaissance, par réseautage, comme on dit. Voilà, donc actuellement, nous avons encore besoin de bénévoles. C'est encore un petit peu juste pour certains secteurs.
Parce que votre épicerie est ouverte combien de journées ou d'après-midi, je ne sais pas, dans la semaine, comment ça fonctionne?
L'épicerie est ouverte deux demi-journées par semaine. Actuellement, on a augmenté le temps d'ouverture. Donc, elle est ouverte le jeudi après-midi de 14h à 19h et le vendredi de 9h à 14h.
Voilà. 9h-14h, ah oui, avec
voilà,
le midi.
Pour permettre, oui. Voilà, à midi et le jeudi soir jusqu'à 19h pour permettre aux personnes qui travaillent de bénéficier quand même des services de l'épicerie.
Et si je veux être bénévole dans votre association, au panier de Léontine, qu'est-ce que vous allez pouvoir me proposer comme genre de poste?
Actuellement, on a beaucoup de difficultés à recruter des personnes qui s'intéressent aux approvisionnements parce que c'est un peu ingrat. Par contre, il y a beaucoup de besoins dans tous ces postes, c'est-à-dire recevoir de la marchandise, passer des commandes, rechercher d'autres producteurs, des producteurs locaux, voilà. Là, il y a vraiment de quoi s'investir.
D'accord. Bon, vous entendez tous ceux qui nous écoutent ce matin sur Fenetsuko. Eh ben, n'hésitez pas, si vous avez envie de donner du temps à venir rejoindre l'équipe du panier de Léontine.
On peut dire aussi que peut-être sur Villefontaine, il y a aussi des besoins dans l'accueil des personnes.
D'accord, parce que concrètement, je suis une personne qui a la chance de bénéficier de votre épicerie. Comment ça se passe? J'arrive dans l'épicerie et je fais quoi? Je peux faire mes cours, je rencontre du monde, je ne sais pas comment ça s'organise.
Vous êtes bénéficiaire ou solidaire?
Alors, je suis bénéficiaire. Voilà. Imaginons que je suis une femme, une personne qui a la chance de pouvoir bénéficier de l'aide du panier de Léontine. Comment ça se passe?
Eh bien, une fois que vous avez signé le contrat qui vous engage avec nous sur 6 mois, ce contrat, il n'est pas très coercitif. Il est simplement, il demande aux personnes de venir régulièrement à l'épicerie.
D'accord.
C'est-à-dire que ce n'est pas du tout comme le système qu'on a peut-être pour certains, c'est-à-dire de faire les courses une fois par mois, par exemple. L'épicerie, elle est petite, on ne peut pas faire des stocks. Donc, et puis c'est bien pour l'accompagnement aussi des personnes, qu'elles soient régulièrement, qu'elles viennent régulièrement à l'épicerie. Elles viennent, elles font leurs courses. Voilà, elles font leurs courses en fonction de ce qu'elles souhaitent, en fonction de leur budget. Et elles font leurs courses comme tout le monde. La seule chose, c'est que pour certains produits, il faut des précommandes. Donc, d'une semaine sur l'autre, elles commandent des choses.
D'accord.
C'est bon pour le fruits et légumes, tout ce qui est frais. Fruits et légumes, produits frais, voilà. Autrement, oui. À l'épicerie, elle trouve tout. Elle trouve l'épicerie sèche, congélation, produits frais, fruits et légumes, y compris tout ce qui est droguerie, voilà.
Et puis j'ajouterais que la personne, une fois qu'elle a fait ses courses, elle bénéficie souvent, 2 fois par mois, d'un atelier animation. Donc actuellement, nous faisons une animation sur la relaxation, la respiration. Donc il y a de véritables ateliers organisés par des personnes du métier. Nous avons fait dernièrement une exposition, alors c'est un tout autre atelier, une exposition sur les courges par exemple, où on pouvait goûter une soupe. Voilà, donc ces ateliers sont toujours orientés vers la santé et l'alimentation et nous essayons de varier les ateliers, les animations. En plus de l'accueil et de l'accompagnement que ces personnes trouvent en venant acheter au panier de Léontine.
D'accord, donc c'est un autre jour que les jours d'ouverture?
Non,
c'est en même temps. Donc elles font leurs courses et après elles vont se relaxer si elles ont envie.
Voilà.
Ah, mais c'est super, moi je... On n'a pas tous cette chance-là.
Oui, donc si vous venez cette semaine, effectivement, vous pouvez faire ça, faire vos courses et ensuite vous relaxer.
D'accord, donc moi qui ne suis pas bénéficiaire, on va dire, des prix du panier de Léontine, je peux aller au panier de Léontine, je fais mes courses comme n'importe quelle personne et je peux me mélanger, je peux aller à l'atelier relaxation. Le but c'est
tous ensemble.
Voilà, c'est de un peu mélanger, de créer des liens sociaux.
C'est complètement le but.
D'accord. Ok, c'est super, je trouve, comme idée.
Et pour l'atelier courge, on a eu l'aide des jardins collectifs de Bourgoin.
Voilà. D'accord, donc vous
Pailletère.
Voilà. De Pailletère, bon.
Avec une superbe exposition de différentes courges, toutes sortes de courges, des bleus, des oranges, des rouges, des jaunes. C'était la surprise, oui, avec les caractéristiques culinaires de chaque courge.
D'accord, donc en fait, votre idée, c'est de vous appuyer sur aussi les associations locales qui vous permettent de faire une espèce de partenariat, de pouvoir mélanger un petit peu tous les savoir-faire qu'il y a sur Bourgoin.
C'est une véritable solidarité, là, entre Pailletère, par exemple, et le panier de Léontine, qui s'instaure entre des producteurs et puis nous qui distribuons les produits.
Et maintenant, notre pause musicale, la chanson pour l'Auvergnat de Georges Brassens.
Elle est à toi, cette chanson, toi l'Auvergnat qui, sans façon, m'a donné 4 bouts de bois, quand dans ma vie il faisait froid.
toi qui m'as donné du feu quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez. Ce n'était rien qu'un feu de bois, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore, à la manière d'un feu de joie. Toi l'Auvergnat, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, au Père éternel. Elle est à toi cette chanson, toi l'hôtesse et puis sans façon, m'a donné quatre bouts de pain, quand dans ma vie il faisait faim. Toi qui m'ouvris ta huche quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés s'amusaient à me voir jeûner. Ce n'était rien qu'un peu de pain, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore, à la manière d'un grand festin. Toi l'hôtesse, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, au Père éternel. Elle est à toi cette chanson, toi l'étranger qui sans façon d'un air malheureux m'a souri lorsque les gendarmes m'ont pris. Toi qui n'as pas applaudi quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés riaient de me voir emmener. Ce n'était rien qu'un peu de miel, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore, à la manière d'un grand soleil. Toi l'étranger, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, ô Père éternel.
Nous sommes à Fenêtre sur cour, couleur FM.
Nous sommes avec Liliane et Michel sur le sujet de la précarité et avec le panier de Léontine. Qu'est-ce qui vous différencie des Restos du Cœur ?
Oui, donc l'épicerie, le panier de Léontine ne fonctionne pas comme les Restos du Cœur. Effectivement, nous nous adressons à des personnes qui ont quand même un certain revenu, puisqu'elles ont, je le répète, entre 100 et 250 euros de revenus disponibles par personne et par mois. Ces personnes viennent à l'épicerie et achètent. D'abord, ces personnes ont le choix de leurs produits. On ne leur donne pas un panier tout prêt. Elles choisissent elles-mêmes leurs produits et sont acteurs de leur vie. Elles ont un véritable projet quand elles viennent à l'épicerie. Elles ont une difficulté, on va dire, de financière passagère. Elles ont ce projet, je crois que je l'ai déjà dit, d'achat, de partir en vacances, de se dégager du surendettement. Et donc, elles réalisent ce projet en même temps. Donc, pour toutes ces raisons, nous nous différencions des Restos du Cœur.
Quel est le profil des personnes qui sont bénéficiaires à votre épicerie ? Est-ce que ces profils ont changé depuis la création ? Et combien de personnes bénéficient
fréquentent l'épicerie ?
Il y a actuellement, on reçoit approximativement entre 26 et 30 familles sur Villefontaine, entre 26 et 30 familles sur Bourgoin. Ça représente environ 150 foyers touchés. Ça représente 450 personnes, oui. Environ 200 adultes et 250 enfants. Oui, c'est assez important quand même. Le profil des personnes, on ne peut pas dire qu'il y a une évolution flagrante. On peut quand même s'apercevoir qu'on reçoit un peu plus de personnes retraitées qui ont des revenus relativement bas. Et ça nous pose d'ailleurs le problème de savoir comment, parce que dans notre fonctionnement, le contrat est renouvelable une fois, parce qu'on espère que les personnes, elles ont des difficultés financières ponctuelles. Eh bien, les personnes retraitées, quand elles ont des bas revenus, ça ne bouge pas. Donc, c'est une interrogation qu'on a actuellement et qu'il faudra qu'on résolve.
Il y a aussi beaucoup de personnes monoparentales, des familles monoparentales, et là on aide au mieux, parce que des femmes, quand elles retrouvent du travail, elles n'ont pas forcément le temps de venir à l'épicerie, donc on essaye au maximum de les aider, et parce que là pour le coup elles ont vraiment besoin des services qu'on leur propose.
D'accord, donc ce créneau horaire que vous disiez tout à l'heure, qui est
voilà,
jusqu'à 19h,
qui permet aux personnes qui travaillent de venir quand même.
On va peut-être rappeler pour les auditeurs où vous vous situez exactement, à la fois à Bourgoin et à la fois à Villefontaine, et peut-être des événements qui vont se passer bientôt et que vous voulez faire partager à tous les auditeurs de Couleur FM. Je vous laisse la parole.
Oui, bien sûr. Alors, nous nous situons à Bourgoin, 101 rue de la Libération, et à Villefontaine, dans le quartier de Sévenoble, rue Pasteur. Voilà, donc nous sommes cette association, je rappelle, était portée par le Secours catholique, et nous sommes une toute jeune association qui a repris le relais depuis avril 2015. Et donc nous sommes en plein projet, puisque nous nous ouvrons en solidaire, et je voudrais rappeler donc qu'à partir du 7 janvier, ces deux épiceries sur les deux sites s'ouvrent au solidaire, donc toute personne peut venir acheter ses produits au panier de Léontine. Nous avons, je ne sais pas si on peut dire l'ambition, en tout cas le désir de proposer de bons produits pour tous, des produits locaux, des fruits et légumes locaux, des produits bio le plus possible aussi, grâce au GESRA, qui est le groupement des épiceries sociales et solidaires Rhône-Alpes, qui nous aide dans ce sens. Voilà.
Bravo, on vous souhaite...
Merci.
Une grande réussite pour cette nouvelle ouverture de l'épicerie, avec cet accueil des personnes solidaires. Et puis au plaisir de vous retrouver dans l'épicerie, j'imagine.
Merci beaucoup.
De Monsieur Jean Renoir, sur une musique de Georges Vamparis, la chanson du film French Cancan, La complainte de la butte. En haut de la rue Saint-Vincent, un poète et une inconnue s'aimèrent l'espace d'un instant, mais il ne l'a jamais revue. Cette chanson il composa, espérant que son inconnue, un matin de printemps, l'entendra quelque part au coin d'une rue. La lune trop blême pose un diadème sur tes cheveux roux. La lune trop rousse de gloire éclabousse ton jupon plein de trous. La lune trop pâle caresse l'opale de tes yeux blasés. Princesse de la rue, sois la bienvenue dans mon cœur blessé. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les ailes des moulins protègent les amoureux. Petite mendigote, je sens ta menotte qui cherche ma main. Je sens ta poitrine et ta taille fine, j'oublie mon chagrin. Je sens sur tes lèvres une odeur de fièvre de gosse mal nourrie. Et sous ta caresse, je sens une ivresse qui m'anéantit. Et les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Et les ailes des moulins protègent les amoureux. Mais voilà qu'ils flottent, la lune se trotte. La princesse aussi, dans la nuit sans lune, je pleure à la brune, mon rêve évanoui.
Continuer sur notre thème de la précarité de ce mois-ci, nous allons à présent entendre une interview avec l'association Maillon de Bourgoin-Jallieu. Et je vous rappelle que nous sommes à l'émission Fenêtre sur cour sur Couleur FM 97.1.
Nous sommes aujourd'hui dans les bureaux de l'association Tandem, qui gère les appartements de coordination thérapeutique Maillon. Nous sommes reçus par
Maya, infirmière coordinatrice,
et Frédéric, chef de service.
Alors, derrière ce sigle Maillon, Maillon M-A-I-O-N, hautement symbolique, qu'est-ce qui se cache, Frédéric ?
Maillon, en fait, c'est de l'occitan. Ça veut dire Mayoun. En fait, il faudrait le prononcer Mayoun, ça veut dire maison. Donc, il nous semblait important pour recevoir des gens qui ont des maladies en voie d'insertion, d'avoir un lieu comme ça ou un nom à double symbolique. Maison et Maillon, comme l'entraide ou l'accompagnement qu'on peut apporter.
Comment est né le projet de votre association et quel est son objectif ?
Maya ?
Alors, le projet est né d'un appel à projet au niveau national. En fait, les appartements de coordination thérapeutique sont un dispositif créé depuis de nombreuses années, maintenant dans les années 2000, et voilà, à peu près dans les grandes villes de France. Il y a eu une étude en 2012 démontrant l'intérêt de ce type d'accompagnement dans l'amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques en situation de précarité. Et donc l'association Tandem a répondu à cet appel à projet, et, qui était un appel à projet au niveau Rhône-Alpes. Et donc le Nord-Isère n'étant pas doté de ce type de dispositif, il y en a à Lyon, il y en a à Grenoble. Voilà, l'association Tandem a été choisie pour créer ce dispositif, donc qui compte 6 places pour 6 personnes sur Bourgoin.
Donc l'objectif de votre association, c'est d'accueillir des personnes, vous dites, qui sont
malades en fait.
D'accord.
Donc à l'origine, ces dispositifs ont été créés lors de l'épidémie du SIDA, du VIH. Donc c'est très vieux, hein, ça date de 89. C'était à destination des personnes, c'était plus un lieu de fin de vie, jusqu'à l'avènement des trithérapies en 96. Et de là, c'est resté un statut un peu expérimental jusqu'en 2012, hein, où c'est
2002,
où c'est devenu un établissement médico-social et ouvert à toute maladie. Ça veut dire que voilà, il y a des gens peuvent avoir le VIH, le cancer, les hépatites, hein, les problèmes rénaux, enfin toute maladie chronique somatique, avec aussi un volet de précarité. Ça veut dire que les gens voilà n'ont pas les moyens de se soigner. Les appartements de coordination thérapeutique sont dotés de voilà de personnel paramédicaux, mais aussi sociaux, qui permet de travailler la question de l'insertion, mais au sens large. L'objectif, c'est de l'hébergement temporaire. Ça veut dire que les gens restent un certain temps, apprennent voilà ont plus d'informations sur leur maladie. Je pense que Maya développera plus tard, mais aussi la question de l'insertion, refaire ses papiers, apprendre à vivre, à revivre dans un logement, restaurer la confiance que les personnes peuvent avoir perdu en elles, revenir dans le droit commun. Ça veut dire, comme vous et moi, quand c'est possible, un appartement, un travail. Voilà, quand l'état de santé aussi le permet.
Il n'y a pas de malade psychique ?
Alors, il peut, enfin, la maladie psychique n'est pas un frein pour rentrer sur les appartements, mais c'est pas la porte d'entrée. La porte d'entrée pour venir chez nous, c'est qu'il faut être malade au niveau physique, somatique.
Voilà, je vais peut-être traduire un peu maladie chronique, somatique. Donc, maladie chronique qui ne se guérit pas, c'est-à-dire qu'on garde toute sa vie et qui nécessite du coup un traitement médicamenteux régulier, mais aussi un contexte de vie le plus favorable possible à la santé. Donc c'est sûr que les situations de précarité, que ce soit au niveau des difficultés d'hébergement ou de stress liés au fait qu'on ne sait pas de quoi sera fait le lendemain, sont vraiment des facteurs défavorables pour l'équilibre de la maladie chronique. Donc le fait de se stabiliser en hébergement et l'accompagnement social va permettre une meilleure prise en compte par la personne de sa maladie, sachant que c'est dans la maladie chronique le patient qui est vraiment son propre médecin, quelque part. C'est vraiment lui qui est au cœur de son traitement, de sa prise en charge, et que voilà, il faut. L'idée, c'est de travailler justement avec la personne pour qu'elle ait le plus de compétences possibles en fait pour s'occuper de sa santé. Alors après, voilà, ça c'est la porte d'entrée, maladie physique qui ne se guérit pas. Les personnes peuvent être atteintes aussi, en plus, de troubles psychiques, psychiatriques, ou d'addiction, de dépendance à des produits. Voilà, c'est pas un frein pour être accueilli sur notre dispositif.
L'équipe est constituée en fait donc de nous deux et il y a un mi-temps d'éducateur spécialisé qui n'est pas là aujourd'hui avec nous, alors qu'il aurait bien aimé être là, et aussi un médecin, voilà, 0-10 équivalent temps plein. Donc ça fait une après-midi par semaine.
À quel public vous adressez-vous ?
Alors la précarité, c'est au sens large, hein. Ça peut être voilà, des gens à la rue qui n'ont pas du tout de logement, soit qui sont hébergés en hébergement d'urgence via la veille sociale le 115, mais ça peut être aussi des gens qui sont hébergés chez des proches, voilà, dans un lieu d'habitat qui n'est pas favorable à la réinsertion tant sociale que de santé.
Et qui vous les envoie, ces personnes ?
Alors, tout le monde peut nous les envoyer, sachant que voilà, ça peut être l'hôpital, le conseil général,
le centre communal d'action sociale,
les centres d'hébergement. En fait, la particularité, c'est qu'il faut un dossier social. Ça veut dire qu'il y a un dossier social qui décrit un petit peu la situation, voilà, de la personne, de savoir où elle en est par rapport à ses démarches d'insertion, de logement, etc. Mais aussi un dossier médical qui est validé par le médecin. Et suite à ça, on convoque les gens pour faire un entretien d'admission, savoir si on est à même ou pas de les accompagner dans nos appartements. Là où vous vous trouvez, c'est les bureaux, mais en fait, on dispose, comme on dit, 6 places, on a 6 appartements qui sont dans Bourgoin. Voilà, c'est des logements qui sont diffus, donc éclatés, voilà, dans des immeubles
classiques,
complètement anonymes, voilà, qui sont tout équipés. Voilà, il y a de quoi faire à manger, un canapé, enfin, ou un lit, et on fournit tout, en fait, sauf l'alimentaire, pour que les personnes puissent se réinsérer.
J'aimerais qu'on revienne un peu sur ces appartements. Justement, vous avez créé l'association. Les appartements, ils ne sont pas tombés comme ça. Donc, il y a une recherche, il y a une installation. C'est des appartements pour personnes célibataires, pour couples, pour personnes avec enfants.
Voilà. En fait, on a du T1 ou T3. Ça veut dire qu'on a du studio. Voilà. On a des appartements où il y a une chambre séparée. Et on a un appartement où il y a 2 chambres. Parce qu'on peut être amené à accueillir soit des personnes seules, soit des couples, soit des mères ou des couples avec enfants. Donc du coup, on a un petit peu le panel d'appartements.
Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ?
Qu'est-ce qui est difficile ? Écoutez, c'est un nouveau projet, donc il faut arriver à se faire connaître voilà, au niveau du réseau, tant des partenaires sociaux que des partenaires médicaux. Il y a un gros travail de communication à faire, qui n'est pas tant, voilà, au niveau de l'accompagnement, c'est pas tellement on est des professionnels aguerris, du coup, c'est pas tant l'accompagnement qui nous pose de difficultés, c'est arriver à faire connaître le dispositif.
Ce qui vous arrive des moments où vos appartements sont libres, manque de...
Alors, on vient d'ouvrir en juillet, hein, c'est tout neuf, hein.
Ah, d'accord.
Donc, on est tout récent, c'est un appel à projet oui. qui a été lancé, l'année dernière, on est tout récent, donc du coup.
Donc on tombe à pic là ?
On vous tombe à pic. La difficulté finalement, c'est qu'on a eu beaucoup de demandes pour 6 places, donc ça veut dire 6 personnes, et que là on en est à 16 ou 17 demandes, donc on ne peut pas répondre finalement à tous les besoins du territoire. Voilà.
D'accord.
Ça, c'est vraiment la préoccupation première.
D'accord, faudrait que ça se développe plus.
Il faudrait que ça se développe plus. Mais là, on n'est pas maître à la demeure.
C'est ce qui différencie votre association d'autres structures analogues.
En fait, ça n'existe pas, les autres structures qui prennent en charge la question de la globalité. Soit c'est du soin, ça veut dire qu'on va accompagner les gens voilà, dans leur état de santé, soit c'est de l'insertion sociale, en fait. Donc, un travail, on accompagne les gens vers le travail, vers le logement. Et que les appartements de coordination thérapeutique, c'est vraiment global. Ça veut dire qu'on accueille les personnes là où elles en sont, et on essaie de travailler avec eux, voilà, dans leur globalité, donc de les prendre là où elles en sont, tant au niveau sanitaire, santé que social, que d'insertion, et on essaie voilà, de parce qu'on sait bien qu'on ne peut pas morceler les gens et qu'on est obligé d'accompagner les gens dans leur globalité.
Parlez-nous un petit peu du suivi. Donc, vous avez les 6 appartements, vous avez les personnes, vous les rencontrez quotidiennement, vous faites des réunions, c'est au coup par coup.
Alors du coup voilà, par rapport à ce que disait Frédéric, Tout l'intérêt, c'est justement de travailler ensemble, donc infirmières, médecins et éducateurs ou assistantes sociales, qui sont finalement des professions qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, qui se connaissent pas très bien et qui ont des modalités de travail qui peuvent être différentes. Et, donc voilà, déjà tout le point de départ, c'est de pouvoir travailler ensemble, chacun dans ses compétences, mais en ayant un accompagnement qui soit le plus souple possible, c'est-à-dire qui s'adapte vraiment aux personnes. Voilà, on ne va pas les recevoir qu'en entretien, derrière notre bureau, deux, trois quarts devant l'ordinateur. Voilà, c'est vraiment... on est au plus proche de la vie des personnes. Donc on peut les recevoir au bureau quand on a des choses assez administratives ou voilà, des points à discuter en entretien, mais on va organiser aussi des activités en fonction de ce que souhaite la personne, de ce qui nous paraît intéressant. En fait, on est sans cesse en train de préparer le projet ensemble, avec la personne. On va se réunir à peu près tous les mois et demi, on fait le point, voilà, on avait tel objectif, aller à la piscine une fois par semaine, au niveau de la préparation des repas, pouvoir travailler certaines choses, aller faire les courses, aller se promener, voilà, vraiment des activités extrêmement variées, variables en fonction des personnes. Et ça peut être des démarches administratives, de l'accompagnement physique aussi chez le médecin. Souvent, voilà, quand le patient se retrouve face au médecin, il oublie un peu toutes les questions qui se posaient. Donc voilà, on peut l'aider justement à se rappeler de ces préoccupations-là et à les exprimer auprès du médecin. Donc voilà, on est vraiment là en soutien de ce que souhaite la personne et de là où elle veut arriver. On peut aller les voir aussi dans les appartements, où tout est possible.
Et la fin de l'accompagnement, c'est quand vous considérez que la personne a retrouvé des liens sociaux et qu'elle se sent bien, ou bien est-ce qu'il y a une limite ? Qu'est-ce qu'ils font les gens après ?
Peut dire que la moyenne nationale d'accompagnement en ACT est entre 12 et 18 mois.
D'accord.
Alors il peut y avoir soit du relogement, ça veut dire que les gens quittent les ACT pour aller chez eux. Ça peut être aussi un retour en famille. Voilà, parce que c'est compliqué finalement de se retrouver tout seul. Ça peut être aussi une réorientation là plus vers le champ du handicap et l'hébergement du handicap. En fait,
j'ai l'impression que vous êtes comme un petit sas où la personne est en difficulté, elle vous rencontre, elle est accompagnée pour normalement se développer elle-même et être mieux. La logique veut qu'elle se retrouve capable de gérer sa vie seule, ce qui est comme normalement, j'imagine, l'objectif. Et vous êtes entre les deux. De ce que j'entends, c'est ça. Alors, soit après, effectivement, ça fonctionne bien, elle retrouve une vie quasi normale, ou bien, alors, comme vous dites, des fois, c'est pas toujours si facile et si simple. Et...
Oui, puis oui, en tout cas, on essaie toujours d'avoir une orientation adaptée après les ACT. On ne s'appelle pas Maillon pour rien, finalement. Parlez de SAS, voilà, en dehors de Maillon, de la maison, du côté rassurant, quand les gens voilà, sont accueillis au début, mais on est vraiment un SAS. Ouais, vous avez bien défini
d'accord.
Le travail.
Quel est votre but de financement, quand même ? Je pense que c'est une question importante.
C'est une dotation globale qui est, voilà, c'est l'ARS, l'Agence régionale de santé, en fait, qui nous finance, qui finance les appartements de curation thérapeutique.
De manière pérenne. C'est-à-dire qu'on n'a pas à redemander les financements chaque année.
Et la municipalité participe aussi ?
Non.
Pas du tout. Non.
Et le conseil général ?
Non plus.
Non, le médico-social, c'est vrai que du coup, c'est plus du champ de l'Agence régionale de santé, anciennement la DAS, voilà, qui finançait ce type d'établissement, qui finance aussi les maisons de retraite, les maisons d'accueil pour les personnes handicapées. C'est souvent. Alors après, le champ du handicap, c'est vrai que ça peut dépendre du conseil général aussi, mais.
D'accord, donc votre patron, entre guillemets, c'est financé, c'est l'ARS.
Voilà,
d'accord,
tout à fait. Okay.
C'est des financements CPM, en fait.
CPM, ça veut dire
Sécurité sociale.
Alors, si vous aviez un souhait à exprimer concernant votre mission, quel serait-il ?
Ça serait d'avoir plus de places. Je crois que, voilà, quand vous disiez qu'on avait eu 16 demandes pour 6 places, ça nous oblige à faire des choix et qu'on aurait plus de places, on pourrait faire, voilà, accueillir plus de personnes et être plus dans nos missions. Enfin, on est déjà dans nos missions, mais accueillir plus de personnes, voilà, avoir plus d'appartements de conseils thérapeutiques.
Que
ça se développe.
Au-delà de l'accueil des résidents, de pouvoir aussi répondre aux besoins, justement, du Nord-Isère, sur justement comment accompagner les personnes en précarité qui ont des problématiques de santé. parce que je pense que voilà, là il y a un champ de réflexion et de rencontre entre le secteur social et médical qui est vraiment à développer, à renforcer, voilà. Donc on peut être aussi ce maillon-là sur le Nord-Isère, justement pour, même si on n'accueille pas les personnes sur Mayon, pouvoir conseiller, orienter les travailleurs sociaux qui ont ces problématiques-là dans leur quotidien sur des dispositifs adaptés.
Non, Papa Noël, si tu nous écoutes, voilà, on t'attend le 25 décembre.
Par l'intermédiaire de Couleur FM. Bon, Maya, Frédéric, nous vous remercions et il nous reste à vous souhaiter plein de maillons pour constituer une longue chaîne de solidarité.
Et pour illustrer notre thème, nous avons l'honneur d'écouter la chanson de Charles Aznavour, Emmenez-moi.
Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent le ventre alourdi de fruits, les bateaux. Ils viennent du bout du monde apportant avec eux des idées vagabondes aux reflets de ciel bleu, de mirages. Traînant un parfum poivré de pays inconnus et d'éternels étés où l'on vit presque nu sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du Nord. J'aimerais les barbouiller ce gris en virant de bord. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Dans les bars à la tombée du jour avec les marins, quand on parle de filles et d'amour, un verre à la main. Je perds la notion des choses et soudain ma pensée m'enlève et me dépose un merveilleux été sur la grève, où je vois tendant les bras l'amour qui comme un fou court au devant de moi et je me pends au cou de mon rêve. Quand les bars ferment, que les marins rejoignent leur bord, moi je rêve encore jusqu'au matin, debout sur le port. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Un beau jour sur un rafio craquant de la coque au pont, pour partir, je travaillerai dans la soute à charbon. Prenant la route qui mène à mes rêves d'enfant sur des îles lointaines où rien n'est important que de vivre, où les filles alanguies vous ravissent le cœur en tressant, m'a-t-on dit, de ces colliers de fleurs qui enivrent. Je fuirai laissant là mon passé sans aucun remords. Sans bagage et le cœur libéré en chantant très fort. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. La 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 di la 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 di la la di la 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 di la la di la la di la 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 di la 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 di la la di la la.
Vous êtes à Fenêtre sur Cour dans l'émission sur la précarité. Et maintenant, en complément, un petit texte sur le Secours populaire qui fête cette année ses 70 ans. Nous aidons les familles au niveau vestimentaire, braderie, colis alimentaires, collecte dans les magasins, constitution de dossiers pour la préfecture, la CAF, accès aux droits pour la santé, AME, CMU, accompagnement service PASS à l'hôpital Pierre-Houdot, soins gratuits, visites médicales, examens médicaux, médicaments, en complément de l'assistante sociale. Recherche d'appartements. Soutien scolaire. Apprentissage de la lecture et écriture pour l'intégration des personnes venant d'autres pays. Cours d'informatique spécifique pour apprendre le métier d'infographiste, logiciel Photoshop et Illustrator. Visite d'imprimerie, cristallerie. Vacances des familles et enfants. Journée des oubliés des vacances. Copains du monde. Sensibilisation à la vie des enfants dans le monde. Nous vous donnons quelques chiffres concernant l'accueil des familles par le Secours populaire du Comité des portes de l'Isère de Bourgoin-Jallieu. 469 familles reçues au 30 juin 2015, soit 684 adultes, 543 enfants de 3 à 18 ans, 122 enfants de moins de 3 ans. Sur toute la CAPI, nous aidons 649 familles. Vous pouvez nous contacter au 04 74 43 98 94.
Et maintenant, écoutons la voix du mois de Geneviève Antonioz de Gaulle.
Moi, je pense que l'abbé Pierre, il ouvre des brèches. Et c'est pas mal, hein, c'est déjà pas mal. Mais c'est un mur entier qu'il faut abattre. Le mur entier qui sépare notre société dite de progrès de ceux qui ne suivent pas le progrès et qui tombent dans la grande pauvreté et qui sont de plus en plus nombreux. Alors, il y a bien sûr le manque de logement, c'est un des éléments les plus tragiques de la situation de ceux qui ne peuvent pas être relogés et qu'on ne veut pas reloger, car on a maintenant les moyens de les reloger, de les aider, mais ils sont refusés par les HLM, ils sont refusés par des municipalités. Donc ça nous concerne tous, ça concerne tous les citoyens. Et si nous lançons cette pétition, c'est pour que justement nous fassions d'une manière aussi large, aussi intense qu'il est possible, un appel aux autorités les plus élevées. Or, quelle est l'autorité la plus élevée dans notre Constitution ? C'est le président de la République. Donc il va y avoir des élections pour la présidence de la République, il y a déjà des candidats, il y en aura sûrement d'autres. Nous nous adressons à eux, et nous leur disons à eux, nous refusons la misère, et nous vous demandons de faire une loi, parce qu'il faut que ce soit dans la durée, il ne s'agit pas de faire des mesures par-ci, par-là, même de bonnes mesures. Il s'agit de prendre le problème dans son entier. Le problème dans son entier, ça veut dire aussi bien la formation, la santé, le logement, bien entendu, le minimum de ressources, et ça veut dire aussi l'école, ça veut dire des tas de choses, ça veut dire l'intégrité familiale. Alors tout ça ensemble, si on l'étudie et qu'on en fait une vraie loi avec un grand débat public, que tous les citoyens se sentent concernés, qui disent ben voilà, nous refusons maintenant que notre pays se coupe d'une partie de sa population de plus en plus grande. Et on sait bien que des enfants maintenant n'auront pas l'avenir que n'importe quel enfant peut espérer, parce que d'avance, ses parents resteront là où ils sont.
Notre émission s'achève et nous allons la terminer avec l'agenda. Nous sommes au mois de décembre, c'est bientôt les fêtes de fin d'année et la CAF de Bourgoin-Jallieu, 45 rue du Maréchal Leclerc, propose donc des animations pour fêter ce Noël sous les lumières. Pour ça, le mardi 24 novembre va être exposé dans les locaux de la CAF une exposition d'idées cadeaux et de décorations de fête que vous pourrez fabriquer pour animer ou bien pour décorer votre maison. Vous pourrez vous inscrire à ces ateliers. Donc vous allez avoir un atelier Noël adulte, couture festive, Noël créatif, qui aura lieu du 26 novembre au 15 décembre. Ou alors vous choisirez peut-être l'atelier Noël en famille, du 25 novembre au 18 décembre. Et pourquoi pas un spectacle, un conte, de la musique et des chansons qui auront lieu entre le mercredi 2 et le 16 décembre. L'association CAR de la CAF, qui est le comité d'animation de la résidence, vous propose de faire vos petits achats de Noël, pourquoi pas, au marché artisanal de Noël, qui aura lieu le 3 et le 8 décembre dans les locaux de la CAF et qui permettent à tous ces bénévoles de pouvoir récolter l'argent afin d'organiser des sorties et donc de donner de l'animation à tout ce centre social. Nous vous remercions beaucoup d'avoir écouté cette émission. André et Bernadette se joignent à moi pour vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année, en les vivant sous la lumière et puis la joie, le bonheur, la joie de partager et en ayant toujours une petite pensée pour tous ces gens effectivement qui vivent dans des situations précaires. Et ces fêtes de fin d'année, parfois, c'est pas toujours facile à vivre quand on a déjà des soucis financiers ou bien autres. Mais on veut construire un monde solidaire, c'est notre éthique à fenêtre sur cour. Donc nous vous souhaitons une bonne fin de journée. Au revoir et à bientôt en 2016.